Alors bonjour frères et sœurs, donc on continue l'évangile de Marc. Et on s'était arrêté la fois dernière au chapitre 6, on va donc reprendre au chapitre 7. Au chapitre 7, donc à partir du verset 1, et je lirai le texte en deux fois. Premièrement je lirai du verset 1 au verset 30, et dans un deuxième temps je lirai du verset 30 du verset 1 au verset 23 dans un premier temps, et du chapitre toujours 7, verset 24 jusqu'au verset 30 dans un deuxième temps. Voilà, donc je vais lire Marc chapitre 7, et ça parle de tradition. Je ne sais pas si vous avez vos traditions, mais la Bible parle beaucoup de tradition, la place des traditions. Marc 7, donc. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. Il appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Jusqu'ici, amen, la parole de Dieu pour le moment. Un texte qui m'a fait dire que si on devait résumer en une phrase, hein, ma phrase clé, eh bien c'est que seul Dieu peut nous purifier. Seul Dieu peut nous purifier. Et pour cela, il va nous falloir faire au moins trois choix. Ça va être mes trois points. Pour cela, il va nous falloir, premièrement, choisir entre les commandements de Dieu ou la tradition des hommes. Deuxièmement, il va nous falloir choisir si ce qui rend impur nous est extérieur ou intérieur. Et troisièmement, il va nous falloir choisir le bon moyen d'être purifié. Alors nous voilà donc, pour situer le contexte, hein, si vous vous rappelez au chapitre 6, Jésus donc a... On se situe après la multiplication des pains, où Jésus a nourri 5000 hommes, à partir de seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus a fait beaucoup de bien, il a fait des guérisons. Et là, eh bien, on se situe vers le lac de Galilée. Le lac de Galilée, il est assez loin de Jérusalem pour se situer. Et voilà que des religieux qui sont venus de Jérusalem, qui ont fait un grand chemin, des religieux, c'est-à-dire des scribes et des pharisiens qui sont versés dans la loi de Dieu, qui connaissent très bien l'écriture, qui sont jaloux du succès de Jésus, eh bien, cherchent à le confondre et viennent lui faire des reproches. Ils viennent lui faire des reproches, non pas sur ce qu'il a fait, pour cause, il a quand même nourri une foule de 5000 personnes, il a guéri des malades, il a fait beaucoup de guérisons, mais ils viennent lui faire des reproches au sujet de ses disciples. Ils vont pas voir les disciples, ils vont voir Jésus. Tout ce voyage pour se plaindre de quoi ? Qu'ils ne se sont pas lavé les mains avant de manger, selon ce que veut leur tradition. Alors effectivement, choisir entre les commandements de Dieu ou la tradition des hommes. Mon premier point. Cette tradition donc de se laver les mains avant de manger et de laver aussi les ustensiles, les coupes, etc., eh bien elle s'est généralisée à tous les juifs, nous dit le texte. Quand est-ce qu'il faut le faire ? Non seulement avant de manger, mais en revenant de la place publique. Comme si le contact avec les autres, le peuple, eh bien, rendait impur. Une impureté donc extérieure. Je ne sais pas quelles sont vos fréquentations. En tout cas, là, les pharisiens avaient peur que le contact avec les autres, avec les gens ordinaires, les rendait impurs. Alors, quelle est leur stratégie aux pharisiens ? Eh bien, leur stratégie va être, comme toujours, d'accuser. Et comme ils ne peuvent pas accuser sur l'intérieur, ils ne peuvent pas accuser sur le cœur pour la bonne raison qu'ils ne le voient pas, eh bien, ils ne peuvent pas non plus accuser Jésus sur ses miracles. Il a fait du bien. Eh bien, ils vont accuser sur ce qu'ils voient avec les yeux. Et des choses, ils vont accuser sur des choses qui peuvent nous sembler insignifiantes. Mais pas pour eux. Comme se laver les mains. C'est une tradition. Une tradition, nous dit le texte, à laquelle ils tiennent. Le mot est répété deux fois, verset 3, verset 8. Une tradition qu'ils gardent, verset 9. Alors on peut se poser la question, pourquoi un tel attachement de ces gens religieux à leur tradition ? Eh bien, parce que c'est devenu leur religion. Et parce que c'est devenu, on peut le dire, leur idole. Leur tradition est devenue leur idole. On va le voir. Ce qui est frappant, c'est que cette tradition, elle est pourtant née de la loi mosaïque que Dieu avait donnée au peuple. Les commandements que Dieu leur avait donnés au départ. Alors on peut se demander comment ces pharisiens sont-ils venus à une tradition partie de ce qui est bon au départ, de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Comment ont-ils pu en faire une idole ? Comment peut-on faire une idole en partant des choses de Dieu ? Ils en sont arrivés là. Eh bien, on a beaucoup à apprendre là-dessus, je crois, hein. C'est, à bien y regarder, eh bien, une idole, c'est quoi ? Une idole, ça vise à remplacer Dieu. Une idole, la caractéristique d'une idole, c'est pour une religion qui vise à faire de l'ombre pour remplacer Dieu. Alors, comment s'y sont-ils pris, ces scribes et ces pharisiens ? Eh bien, ils ont commencé, en partant de la loi, à y adjoindre juste un petit commandement, un petit écart avec ce que dit la loi. Alors, la Bible, elle est très claire sur certains points, sur d'autres points, elle nous laisse le choix. Mais là, le choix de chacun selon sa conviction. Or, sur certains commandements, la Bible est très claire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont commencé par faire un petit écart avec la loi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est permis un écart. Allez, un deuxième écart. La loi, la tradition. Et petit à petit, l'écart a fini par se creuser entre la loi mosaïque et la tradition des pharisiens. Un écart qui a fini par se creuser. À quel point ? Au point que, eh bien, ils se sont passés des commandements de Dieu. Ils se sont passés des commandements de Dieu. Au point qu'ils ont abandonné, il y a trois mots là, ils ont abandonné, ils ont rejeté et ils ont annulé les commandements de Dieu. Verset 8, verset 9 et verset 13. C'est clair. Leur tradition a fini par les faire abandonner, rejeter et annuler les commandements de Dieu. C'est intéressant parce que c'est parti d'une chose bonne au départ, c'est parti de la loi de Dieu. Et là, on a un sérieux avertissement, mes frères et mes sœurs, de ne pas manipuler la parole de Dieu. C'est-à-dire de ne rien y ajouter, rien à y retrancher. Et je prends ce passage comme qui termine la Bible, dans Apocalypse 22, versets 18 et 19, enfin, qui termine presque, la fin est pas loin. Apocalypse 22, verset 18-19. Ce n'est pas par hasard donc si ce passage est à la fin de notre Bible. Voilà, voici ce qu'il dit, Apocalypse 22, 18, 19. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Alors attention, lorsqu'on commence à prendre un écart, on sait que ça contredit la parole, mais quand même, il y a un écart qui a été pris. Si ça commence comme ça, eh bien l'écart ne va faire que se creuser, au point d'abandonner les commandements de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, on va le voir, c'est ce qui s'est passé. Alors, avant de voir des exemples, quel est le but des pharisiens? Pourquoi ont-ils rajouté des traditions qui n'étaient pas dans la parole? En apparence, leur tradition semble bonne. C'est un culte qu'ils offrent à Dieu, en apparence. Mais derrière, ils ont contourné et ils ont remplacé le vrai culte. Alors leur motivation, c'est quoi? Ben, en voyant des gens religieux, c'était de rechercher l'approbation des gens, l'approbation des hommes. En apparence seulement, donc ils honorent Dieu avec la bouche. Mais le texte nous dit qu'ils ont un cœur très éloigné de Dieu. Ésaïe l'avait prédit au chapitre 29, hein, si vous voulez la référence, c'est Ésaïe 29, les versets 10 à 19, où Jésus reprend les mêmes termes. Que voulaient les pharisiens, les gens religieux? Ils veulent se rendre indépendants de Dieu. Et ils veulent surtout asseoir leur pouvoir sur les hommes qu'ils veulent soumettre. Et oui, de cette manière, ils vont assurer leurs arrières. Ils vont pouvoir assurer leur sécurité matérielle. Ils veulent asseoir leur pouvoir sur les hommes qu'ils veulent soumettre pour mieux les contrôler. En jouant sur quoi? En jouant sur la peur. Parce que leur obéir serait obéir à Dieu. Leur désobéir serait désobéir à Dieu. Et c'est comme ça que fonctionnent les sectes, n'est-ce pas? C'est aussi ce qui s'est passé malheureusement, non seulement avec les Juifs, mais avec l'Église catholique, pleine de traditions. L'Église catholique qui dit « hors de l'Église, point de salut ». Et on le sait bien, l'Église à la fois prêche l'Évangile et aussi a rajouté des traditions qui contredisent l'Évangile, qui contredisent la parole. Alors, que faire? Que faire lorsque tradition et parole de Dieu se contredisent? Il faut faire un choix. On ne peut pas être sur les deux tableaux. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Eh bien, soyons clairs. La parole de Dieu fait toujours autorité. Elle est notre autorité suprême. Et c'est à elle que nous devons nous soumettre en premier. En premier. Pourquoi? Parce que ce que j'ai là, ce n'est pas une parole ordinaire. C'est parole de Dieu et non des hommes. Ça nous invite à prendre ce livre comme avec la foi que c'est la parole de Dieu. Alors, eh bien, les pharisiens, étant tellement attachés à leur tradition, croyant détenir la seule vérité, eh bien, quelle est la conséquence? Eh bien, ils en viennent à rejeter tout ce qui est différent de leur tradition, tout ce qui est extérieur à leur tradition qu'ils ont toute fabriquée, qui leur est devenue une idole. Seule leur tradition est bonne, tout le reste est mauvais, donc à rejeter. C'est ainsi qu'ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la parole de Dieu. Alors on se dit, bon, ça c'est eux. Alors, il faut aussi nous examiner. Et nous, Église. Est-ce que nous avons d'abord des traditions? Oui, et je ne suis pas en train de dire que les traditions sont mauvaises. Il y a des habitudes qu'il faut tenir, qu'il faut garder. Nous avons aussi nos traditions. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Ou alors on le fait parce qu'on l'a toujours fait. Il est toutefois bon de ne pas nous laisser enfermer dans nos traditions, qui peuvent être bonnes. Mais il y a un danger de se laisser enfermer dedans. Et surtout, attention, personnellement, là, attention à ce que nos convictions, ne deviennent pas des idoles. Parce que ce sont juste des désirs personnels qu'on veut transformer en exigences spirituelles pour les autres. Il faut avoir des convictions. Mais examinons-nous. Est-ce que ce ne sont pas des désirs personnels? Est-ce que c'est fondé sur la parole de Dieu? Il faut des convictions, bien sûr. J'ai entendu, alors, voilà, c'est pas ici, hein. C'est pas ici, mais je l'ai entendu ailleurs. C'est quelqu'un que j'apprécie bien, voilà. J'ai entendu quelqu'un traiter une certaine dénomination d'église de diabolique. Alors que c'est une dénomination qui confesse le Christ comme leur sauveur. Alors évidemment, ils ont des différences dans leur façon de célébrer le culte. Ils font pas comme nous. Ils font pas comme elle est habituée. Ils ont des différences dans un culte qui est moins traditionnel. Pourtant, ils confessent le Christ. Alors, est-ce que d'aller aussi loin? Eh bien, nous, il y a une chose qui va nous garder, qui va nous garder. C'est ce qu'a dit Jésus quant à son Église. Qu'est-ce qu'il a dit? Le point capital à ne pas oublier pour nous, c'est que il a dit: je bâtirai mon Église. Et il le fera, soyons-en convaincus. Quelle que soit ta dénomination, quel que soit d'où tu viens, il a dit: je bâtirai mon Église, quel que soit l'état visible de l'Église, dispersé, beaucoup de dénominations, il a dit: je bâtirai mon Église, il le fera jusqu'au bout. Moi, ça me fait du bien de me rappeler que si Christ nous parle, me parle par sa parole, il parle aussi à toi, et il parle aussi aux voisins qui sont dans une autre dénomination, parce qu'il a dit: je bâtirai mon Église, il leur parle. On a eu il n'y a pas si longtemps donc le congrès de notre union d'église où le thème de l'église c'était l'église une, et c'était un bon rappel vraiment pour examiner le regard que nous portons sur les autres qui ne sont pas tout à fait comme nous. C'est Jésus qui nous gardera de penser que notre église est la seule à détenir toute la vérité, ou n'importe quelle église. Parce qu'il y a cette tendance. Alors, il y a une volonté de se protéger, de pas se rendre impur au contact des autres. Mais gardons-nous de penser que notre Église est la seule à détenir, je dis bien, toute la vérité, prétendant que nous avons tout compris. La seule bonne Église, pour reprendre l'expression qui a été dite au Congrès, l'Église dernier des Mohicans. La seule à maintenir la saine doctrine. C'est le Seigneur qui nous gardera de penser que nous sommes les seuls à détenir toute la vérité, et toutes les autres sont tombées dans l'erreur. Ce sont devenues de mauvaises églises. Il n'y a pas de mauvaises églises. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est son église. C'est lui qui la bâtira jusqu'au bout. Alors évidemment, nous avons tous des progrès à faire. Je vous ramène aux 7 églises de l'Apocalypse. Chacune avait sa situation qui lui était propre et elle n'était pas arrivée. Alors les traditions, les habitudes peuvent être bonnes, mais elles peuvent aussi nous enfermer dans une fausse bulle de sécurité. On a toujours fait comme ça. Ce qui fait que les nouveautés, ça peut effrayer. Et les traditions, le danger qui s'est produit avec les pharisiens, c'est qu'elles peuvent rendre sourds à la parole de Dieu, en fabriquant une religion qui, au final, est centrée sur soi. Alors il faut un garde-fou. Un garde-fou qu'avaient oublié les scribes et les pharisiens. Le garde-fou qui peut nous garder d'une telle dérive et qu'avaient oublié les pharisiens. C'est quoi? Ça a été dit tout à l'heure. L'amour du prochain. Si vous regardez les pharisiens, on cherche l'amour, là, il est où? L'amour de celui qui est différent. À quoi sont-ils devenus sourds et aveugles? Pour reprendre les expressions, verset 7, verset 31 et 8, verset 22, les pharisiens, scribes, les pharisiens religieux, étaient devenus sourds et aveugles à l'amour du prochain, aux besoins de leur prochain. Alors il est bon de rappeler les paroles de Jésus en rapport avec les 10 commandements. Jésus, en Matthieu 22, les versets 37 à 39, il nous rappelle le premier et le plus grand commandement, qui est celui-ci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il continue, il y en a un second qui lui est semblable, pas moins, il lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les pharisiens avaient oublié cette deuxième partie. Alors Jésus, puisque les pharisiens sont venus le voir, comme toujours, il va avoir le dernier mot, et il va les confondre, les pharisiens. Il va les confondre, et pour les confondre, il va aller sur le terrain des 10 commandements. Des 10 commandements. Et il va en citer un des 10 commandements, et pas n'importe lequel, il va citer le 5e, qui est. Est-ce que vous vous rappelez quel est-il ? Honore ton père et ta mère. Alors, il est le 5e, il est aussi appelé le 1er. Alors, il n'y a pas une différence là. Il est appelé le 1er parce que c'est le 1er de la série qui suit, du 5e au 10e. Dans les 10 commandements, il y a 2 séries. Les commandements 1 à 4 nous guident dans notre relation à Dieu. Les commandements 5 à 10 nous guident dans notre relation les uns avec les autres. Et honore ton père et ta mère, c'est le 1er commandement dans nos rapports les uns avec les autres. Et il mentionne nos parents. Qu'est-ce qu'on a à apprendre là ? Eh bien, ce commandement nous apprend que, puisque c'est le premier de la série qui va nous guider dans nos rapports les uns avec les autres, il nous apprend que, pour apprendre à bien vivre avec les autres, il faut d'abord à bien vivre avec nos parents. Si ce commandement est placé en tête de la 2e série, dans les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, pour apprendre à bien vivre avec notre prochain, il faut d'abord apprendre à bien vivre avec nos parents. Et aux parents, bien sûr, d'essayer de bien éduquer leurs enfants. Et je ne vous demande pas une réponse, mais est-ce que vous qui êtes parents, non seulement vous connaissez les 10 commandements, mais est-ce que vous les enseignez à vos enfants ? Je vais y revenir. Ce 5e commandement, honore ton père et ta mère, qui est aussi le 1er, eh bien, les pharisiens avaient détourné ce commandement d'une façon très subtile, en justifiant l'idée que les enfants pouvaient consacrer à Dieu ce qu'ils auraient pu utiliser pour assister leurs parents vieillissants. Selon la formule, c'est corban. Corban, ça veut dire c'est pour Dieu, c'est consacré à Dieu. Jésus remet bien les pendules à l'heure, hein. Parce que une telle attitude, ça pouvait conduire à quoi ? Eh bien, ça pouvait conduire des parents âgés qui avaient besoin d'assistance à mourir par une sorte d'euthanasie passive, de les laisser sans les assister, par négligence. Et évidemment, ça dégageait les enfants de leur responsabilité envers leurs parents. Tout en assurant l'entretien du temple et tout en assurant aussi leur sécurité financière, leur richesse. Évidemment, cette loi, cette tradition était pour leur avantage. Mais qu'est-ce que Jésus nous rappelle ici ? Il nous rappelle que la vraie consécration, c'est corban, c'est pour Dieu. La vraie consécration, elle est dans notre obéissance. L'obéissance, pas une tradition, l'obéissance à ses commandements. À ses commandements. Et là, Jésus le met en évidence. La tradition des pharisiens n'a fait que détourner la loi de Dieu, au point de l'annuler, de vouloir l'annuler. En omettant le plus important, leur tradition, il y a quelque chose qui manque dans leur tradition, c'est quoi ? C'est l'amour du prochain, c'est le regard sur l'autre, qui soit semblable, qui soit différent. Ils ont négligé l'amour du prochain, cet amour du prochain qui commence à la maison. Honore ton père et ta mère. Tout cela sous une apparence spirituelle, en disant, c'est pour Dieu. Il y a un autre exemple, et c'est exactement la même logique, qu'on peut rencontrer, c'est lorsqu'un chrétien, une chrétienne, eh bien, utilise les ressources de son travail. Et je cite l'exemple le plus connu, la photocopieuse. Faire des photocopies, oh mais c'est pour Dieu ! Faire des photocopies pour la chorale, c'est pour Dieu ! Mais qui a payé la photocopieuse ? Qui a payé l'encre ? Qui a payé les feuilles ? C'est le patron. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais à condition de demander auparavant au patron, est-ce que vous êtes d'accord que je fasse quelques photocopies pour, c'est pour mon église ? Voilà, au moins de l'informer. Parce qu'en ne le faisant pas, on enfreint le 8e commandement qui est « tu ne voleras pas ». C'est lui qui a payé le matériel. La religion des pharisiens, leur tradition, à quoi ça les a menés ? Eh bien, ça les a menés au jugement. au jugement de ce qui est différent, de ce qui ne rentre pas dans leur moule, dans leur tradition. Et donc, ça les amène au jugement, ça les a amenés à l'orgueil, ils se croyaient meilleurs, ça les a amenés à mépriser les autres qui ne sont pas comme eux. La grande différence entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens, ils ne recherchaient que les défauts chez les hommes pour mieux les accuser. Jésus, lui, cherche à nous sauver de nos défauts. Jésus, lui, cherche à nous sauver de nos défauts, à nous faire grâce et à faire de nous ses disciples, à le suivre. Les pharisiens, la grâce, ils ne connaissaient pas. Ils mettaient de côté la grâce de Dieu. Et ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris que Jésus était venu non seulement nettoyer les mains, mais surtout notre cœur, notre intérieur. Alors voilà, Jésus a fait la première partie de sa prédication, et bien c'est il a établi le rapport entre la tradition des pharisiens et ce que dit la loi de Dieu, et l'écart entre les deux. Il a mis en évidence cet écart. Après avoir donc abordé le problème de la loi face aux traditions, Jésus va maintenant apporter le deuxième problème, qui est la souillure. Il va aborder la question de la souillure. Mon deuxième point. Donc il va aborder le problème de la souillure, et vous avez remarqué le texte, d'abord il commence à s'adresser à la foule, et c'est un problème tellement important que tout le monde se pose, qu'ensuite les disciples, ils sont perplexes, ils vont lui redemander de leur expliquer en privé, et Jésus va rajouter des précisions. Et ô combien c'est une question sensible, toutes les religions cherchent dans toutes les religions, l'homme cherche à se purifier, ce qui est la preuve que on se sent sale à l'intérieur, à cause de notre péché. On a tous besoin d'être purifiés. Alors mon deuxième point, eh bien, il va falloir choisir si ce qui rend impur nous est extérieur ou nous est intérieur. Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui est impur? C'est une question que tout le monde se pose. Et avant de devenir chrétien, je m'étais posé cette question. Est-ce que je peux manger de ça? Est-ce que je peux toucher à ça? Eh bien, en ce qui concerne les aliments, Jésus va répondre à cette question en déclarant purs tous les aliments. Et par là, il marquait la fin de la loi rituelle juive. La loi rituelle juive, qui a pourtant été donnée par Dieu, interdisait de manger du porc, du lapin, des crustacés. Jésus, à ce stade-là, eh bien, il déclarait purs tous les aliments. Ça, c'était la fin d'une première époque. Jésus était venu pour, non pas pour abolir, pour accomplir la loi rituelle. Mais la loi morale, les 10 commandements, elle reste bonne. Jésus est venu, voilà, pour abolir cette loi, pour accomplir cette loi rituelle, parce que notre problème à tous, qu'on soit juif ou pas, se situe dans notre cœur et pas dans les choses extérieures que nous pouvons toucher, que nous pouvons manger. Et je pense que vous l'avez vu, nous sommes dans une société qui attache beaucoup d'importance à la nourriture. Il n'y a qu'à regarder la télé, il y a beaucoup d'importance attachée à la nourriture. Comme si notre bien-être dépendait de notre façon de s'alimenter. Il y a beaucoup d'écoles là-dessus. Et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, il y a des bons principes. Pas manger trop de gras avant de s'endormir, sinon vous risquez de passer une nuit blanche. Il y a des bonnes choses à savoir, que j'aurais aimé qu'on apprenne à l'école. Mais attention à ce que l'alimentation ne devienne pas une idole au point que de croire que tout mon bien-être va dépendre de ce que je mange ou de ma façon de m'alimenter, parce que ça va conduire à des menus parfois très complexes à réaliser et qui vont devenir plutôt un fardeau qu'une délivrance. Tous les aliments créés par Dieu sont bons, soyons clairs. Soyons clairs. Par contre, ce sont les pesticides qui sont déversés sur pratiquement tous les fruits et légumes. On en est là. Ce sont les pesticides qui peuvent nuire au corps humain, qui peuvent causer des problèmes. Mais c'est notre cœur avant tout qui doit être purifié. Le problème, il est intérieur. C'est pourquoi Jésus, eh bien, nous met en garde contre ceux qui pourraient en sortir. Dans une liste, et quelle liste ? Au verset 21 et 22. Waouh ! Quelle liste ! Alors là, une liste des choses qui pourraient sortir de notre cœur, qui commence par quoi ? Par les mauvaises pensées. Pêche tous, bien sûr, la Bible le dit. Et on pêche de trois manières, on peut dire. On pêche en pensée, on peut pêcher en pensée, on peut pêcher en parole et on peut pêcher en acte. Mais à la base, tout péché commence où ? Il commence ici, dans la pensée. Nos mauvaises pensées. Et là aussi, et attention, et Tim nous l'a rappelé au week-end, il y a des mauvaises pensées qui peuvent, est-ce que ça vous est déjà arrivé, une mauvaise pensée qui vient sans prévenir. Alors vous savez pas d'où elle sort, mais c'est une mauvaise pensée qui vous fait mal, vous êtes mal disposé à l'égard d'un tel. Ah, il vous a rien fait, il vous a rien dit, mais lui ou elle, j'ai un problème. Attention, parce qu'il y a des mauvaises pensées, Tim nous l'a rappelé, qui peuvent venir de Satan. Et quand ces pensées-là, vous n'arrivez pas à les à expliquer pourquoi elles vous viennent comme ça, eh bien, c'est certainement qu'elles vous viennent de Satan. Et dans ce cas-là, il faut les rejeter au nom puissant de Jésus. Et dans ce cas-là, lorsque vous avez des mauvaises pensées, peut-être vous vous sentez coupable, dans ce cas-là, lorsque ça vient de Satan, on n'a pas à demander pardon. C'est une cause extérieure. Mais les autres mauvaises pensées, et on en a, elles viennent du cœur. Et celles-là, il nous faut nous en repentir. Et Jésus fait une liste. Cette liste qu'il fait au verset 21 et 22, eh bien, va nous aider à identifier nos mauvaises pensées. Et c'est intéressant parce que, en regardant de près cette liste fait écho aux 10 commandements. Et on va les prendre. Ils sont pas dans l'ordre, hein, pas dans le même ordre que les 10 commandements. Et c'est très intéressant. Regardez. Je relis donc les versets 20, 21 et 22 et on va voir les parallèles entre la liste et les 10 commandements. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution. Référence au deuxième commandement, tu ne te feras pas d'idole. La Bible compare les idolâtres, l'idolâtrie, à de la prostitution. C'est-à-dire d'avoir un autre Dieu. Je continue la liste, vol. Huitième commandement, tu ne commettras pas de vol. Meurtre. Sixième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Adultère. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Cupidité. Cupidité, c'est l'avarice. Encore le deuxième commandement, tu ne te feras pas d'idole. L'avarice, c'est placer sa confiance sur nos biens, nos propriétés, plus que sur Dieu. Méchanceté, ruse. Ruse, ça veut dire aussi mensonge. Référence au neuvième commandement, tu ne diras pas de faux témoignages. Dérèglement, regard envieux, l'envie, la convoitise. Dixième commandement, tu ne convoiteras point. Blasphème, premier et troisième commandement. Blasphème contre Dieu, c'est contre le premier commandement, n'aie pas d'autre Dieu devant ma face. Et le troisième commandement aussi, de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Orgueil. Alors orgueil, on peut dire ça touche à tous, hein. Il est derrière beaucoup de ses défauts. On peut le voir aussi derrière le quatrième commandement qui dit « Souviens-toi du jour du repos ». Et quand on dit qu'on n'a pas besoin de se reposer, que finalement, ben, y a plus important que de se retrouver entre frères et sœurs, est-ce que là, finalement, on compte pas un peu trop sur ses propres forces? Alors que c'est là, n'est-ce pas, où on se ressource, lorsqu'on se retrouve ensemble. Et il termine par la folie. Les 10 commandements, là, tout l'état du cœur, si on fait référence aux 10, on trouve un écho aux 10 commandements. D'où l'importance de les connaître déjà, et aussi de les enseigner aux enfants. Attention, ils ne sauvent pas. Donc, différencions bien la loi morale de Dieu de la loi rituelle. Jésus, dans sa démonstration, il a ainsi clairement montré quoi ? Que les traditions visibles des pharisiens sont là pour faire de l'ombre au commandement de Dieu, à la loi morale de Dieu. C'est clair, la loi morale de Dieu, les 10 commandements. Ces pharisiens ne veulent pas des 10 commandements. Pourquoi ? Parce qu'elle met en lumière l'état de leur cœur. Et Dieu regarde au cœur. Moi, je ne peux pas voir ce qui se passe dans votre cœur, mais Dieu le voit. Et c'est notre cœur qu'il faut nettoyer. Alors évidemment, eh bien, on a besoin de faire le point sur l'état de notre cœur. Et mettre nos pensées, nos motivations à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, mettra en évidence ce qui ne va pas. D'où l'utilité des 10 commandements. Où est-ce que je me situe par rapport à ça? La religion que Dieu demande est d'abord intérieure, dans le cœur, avant d'être extérieure. Alors voilà, le problème est posé. Alors on peut bien se laver les mains. mais on ne peut pas laver notre cœur. Alors comment faire? Eh bien, mon troisième point, il va s'agir de choisir le bon moyen pour être purifié. Et là, je vous invite à reprendre le texte à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. La suite du texte va nous montrer la bonne attitude pour être purifié. Je vais lire donc la suite. Un autre récit, et comme toujours, c'est pas par hasard si ce récit suit juste le précédent. Donc, Marc 7 à partir du verset 24. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais elle ne put rester cachée. Car une femme, dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Amen. Jusqu'ici, donc, la parole de Dieu. Alors une mère, une maman, une mère qui n'est pas juive, le détail, c'est pas un détail. Une mère non juive, une grecque, syrophénicienne, a entendu parler de Jésus, de ses miracles, voilà, elle a entendu parler de lui, et elle va le voir non pas pour ses besoins à elle, il n'est pas centré sur elle, elle va le voir pour lui demander de chasser le démon chez sa fille. Et Jésus lui fait une réponse étonnante qui peut choquer. Sa réponse, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce sont des paroles dures, vous ne trouvez pas? Concrètement, est-ce que vous auriez aimé vous faire traiter de petits chiens parce que vous n'êtes pas juif? Qui plus est par Jésus lui-même. Mais cette dureté, elle n'est qu'apparente. Parce que Jésus cherchait à tester la foi de cette femme. Cette femme qui savait qu'elle n'avait aucun droit de cité en Israël. Est-ce qu'elle allait réussir le test proposé par Jésus? Alors il y a deux possibilités. Hein. Voilà, imaginons, il y a deux possibilités suite à une remarque pareille. Soit se vexer, se taire, ne rien dire, et puis s'en aller, en se disant, si c'est ça être chrétien, alors à d'autres. L'autre possibilité, ce qu'a fait cette femme, c'est insister. Elle a insisté auprès de Jésus, en lui répondant quoi? Oui Seigneur, verset 28. Alors, en examinant bien les paroles de Jésus, Jésus n'a pas fermé la porte à cette femme, il ne l'a pas rejetée. Mais le pain dont parle Jésus, le pain dont il parle, il était d'abord pour les Juifs. Et ce pain, il s'agit de quoi? De la parole de Dieu. Il était d'abord pour les Juifs. Pour les enfants. Les enfants sont les Juifs. Lorsque Jésus est venu en chair. Les autres, passons après. Parce que l'Évangile, il est pour tous. Il n'est pas seulement pour les Juifs, il est pour les Juifs en premier. Et il est aussi pour les autres, non-juifs, pour nous. Mais les enfants, qui sont le peuple d'Israël, n'a pas voulu de ce pain, la parole de Dieu, qui lui était pourtant destinée. Lui préférant quoi? Lui préférant la tradition de se laver les mains avant de manger. Alors que cette femme, non-juive, elle y aspirait tellement, tellement à ce pain, qu'elle se contenterait même des miettes qui tombent de la table. Et vous avez remarqué, elle ne conteste pas d'être appelée petit chien par Jésus. Elle se reconnaît. Elle ne se décourage pas. Au contraire, elle va s'humilier. Elle n'avait aucune prétention. Et pour cause, elle n'avait aucun droit de cité en Israël. Aucune revendication. hormis celle de pouvoir se nourrir d'un peu d'attention de la part de Jésus. Jésus savait bien sûr ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Une sévérité, ça peut nous sembler sévère, mais qui n'est qu'apparente. Parce que cette sévérité de Jésus a permis quoi ? A permis de mettre en évidence ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur ? Une grande foi et une grande humilité. Quel contraste avec l'orgueil des pharisiens qui avaient tout reçu. Ils avaient la parole. Ils étaient des propres justes, qui comptaient sur leur propre justice. Cette femme, elle ne contestait pas sa position. Quel contraste. Alors je ne sais pas vous, est-ce que parfois vous, ça nous arrive je crois à tous, hein, le Seigneur nous reprend parce qu'il nous aime. Mais ne nous décourageons pas lorsque le Seigneur nous reprend d'une façon qui peut nous sembler sévère, de telle ou telle manière, par un frère, par une sœur. Ne nous décourageons pas si le Seigneur nous reprend d'une façon qui peut nous sembler sévère, si c'est pour mettre en évidence ce qu'il y a dans notre cœur. C'était ce qu'il voulait avec cette femme. Résultat, eh bien, Jésus guérit la fillette en distanciel, pas en présentiel. Jésus a guéri la fillette à distance sur la simple confession de foi de cette femme. Cette femme qui a, de sa bouche, confessé le Seigneur Jésus comme Seigneur, n'a pas contesté. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, sa fille était guérie. Alors, on pourra continuer de réfléchir là-dessus, en tout cas, parce qu'on peut. Ce texte est tellement riche, mais nos paroles ont une incidence sur nos proches, si elles sont empreintes de foi et d'humilité. Cette femme n'était pas plus spirituelle que les autres. Nos paroles ont une influence sur nous-mêmes et sur nos proches que nous aimons, n'en doutons pas. Jésus a ainsi montré que, de même que ce ne sont pas les aliments qui sont et qui rendent impurs, eh bien, les païens ne sont pas plus impurs que les juifs. Telle dénomination n'est pas plus impure que telle autre dénomination. Nous avons tous besoin d'être purifiés. De quoi ? De nos péchés dans notre cœur. Et ces textes sont là pour nous rappeler que seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut laver notre cœur. David l'avait compris dans son psaume, dans sa prière de repentance, qui est le psaume 51. Et c'est une prière dont on peut s'inspirer. Je reprends juste deux versets. Psaume 51, verset 7, où David dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et un peu plus long, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Jésus est venu nous donner bien plus que des miettes. Il a donné sa vie sur la croix pour rendre possible notre purification, en portant nos fautes et toutes nos souillures à notre place. Lui qui était parfaitement pur, lui le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il attend de toi, de moi, de nous ? Eh bien, à l'exemple de cette femme syrophénicienne, il attend la foi dans sa personne, dans ce qu'il a fait, la foi en son sacrifice, et il attend l'humilité lorsque nous avons besoin de nous repentir. C'est ainsi que non seulement nous recevons le pardon, mais Jésus a répondu à la prière de cette femme de par son humilité et par sa foi. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que tous ces récits, Seigneur, où tu as côtoyé tant de gens, Seigneur, tant de gens différents, si différents. Et tu ne t'es jamais compromis, Seigneur, tu as su être comme il fallait avec chacun, religieux ou pas, juif ou pas, enfant, adulte, homme, femme. Seigneur, tu es celui qui répond entièrement à notre besoin premier d'être purifié de nos péchés, Seigneur. Tout homme, toute femme y aspire, a besoin de toi. Et merci parce que c'est vrai que tu es venu nous donner non seulement les miettes, mais tu es venu nous donner la vie en abondance, Seigneur. Et nous pouvons nous approcher de toi sans attendre d'être meilleur, Seigneur. Cette femme qui s'est approchée de toi, tu l'as écoutée, tu l'as exaucée, tu l'as mise à l'épreuve, bien sûr. Alors je prie, Seigneur, que lorsque tu nous envoies une épreuve pour tester notre cœur, Je prie que tu nous aides à être attentifs, à ton écoute, pour que nous réussissions le test, Seigneur, pour nous laisser transformer par toi, pour aller plus loin avec toi, d'aller de progrès en progrès, comme dit ta parole. Et lorsque nous ratons le test, Seigneur, merci parce que ta grâce, elle est encore là pour nous relever. Et pour, Seigneur, pour nous accompagner. Seigneur, donne-nous, oui, de t'être fidèles, de goûter, Seigneur, aux joies de ta présence, de l'obéissance dans ce que tu dis, dans ce que tu nous demandes à chacun. Et Seigneur, pour que le monde voit la différence, Seigneur, entre l'Église et le monde qui ne te connaît pas. Merci, Seigneur, parce que, oui, nous t'adorons, Seigneur. Car tu as montré le parfait amour, le plus grand amour en donnant ta vie. Merci, Père. Garde notre Église, Seigneur, et donne-nous d'avoir un regard juste sur les autres qui sont différents, Seigneur. Voilà, merci de nous rappeler que tu travailles, Seigneur. Non seulement ici, mais là-bas. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.